Sixième émission d'Esprit Sport aujourd'hui. 10 comme de grands sportifs, comme Johnny Wilkinson, Zinedine Zidane ou Maradona, et comme d'autres qui commencent justement tout de suite à marquer leur sport, comme Pierre Gasly qui porte le numéro 10 sur sa voiture, sur son F1 Alpine, comme Romain Tamac qui l'a sur le dos en rouge et noir, mais aussi en bleu. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro d'Esprit Sport qui lance cette semaine des métiers du sport qui a lieu du 6 novembre donc jusqu'au 3 décembre. C'est la semaine des métiers du sport, donc on va forcément aborder un petit peu le sujet aujourd'hui. Et justement, nous découvrirons dans quelques minutes un accompagnateur spirituel qui est un vrai soutien pour des sportifs célèbres, ou non d'ailleurs. On abordera ça aussi avec lui dans le face-à-face. Pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe type. Il nous fera la semaine prochaine une chronique sur les émotions qu'il aura ressenties lors du match TFC Liverpool. Parce que oui, ce jeudi, il fait partie de ces chanceux à pouvoir y aller. Bienvenue Corentin.
Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous.
Vous allez profiter de TFC Liverpool dans le stade.
On va bien en profiter, ouais.
Voilà, c'est ça. Et je suis sûr que vous nous ferez pourquoi You're Never Walk Alone. Ah. Non, il a pas envie de chanter, bon, c'est pas grave, je vais essayer.
je vais pas vous épargner déjà mon accent anglais et puis surtout ma voix qui est un petit peu cassée en raison de mon rhume.
Mais faites-nous profiter de tout ça, on verra plus tard. Elle est heureuse, elle est aux anges, mais l'émission va peut-être la faire revenir sur Terre, quoique peut-être pas. Bonjour Coraline.
Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous.
Alors, remise de cette victoire de la section paloise.
Ah, je suis sur mon petit nuage, je pense qu'il va me falloir encore quelques jours pour m'en remettre.
Vous avez rien du tout, puis on va en parler justement dans le flash de Corinne Saint-Félix qui arrive dans quelques instants. Aujourd'hui, la section paloise est toujours première de top 14.
Ouais, tout à fait, première de top 14, ex aequo avec les franciliens et les parisiens.
Voilà, et eh bien écoutez, on espère que ça dure. Pour commencer, on va retrouver aussi les top et les flops de l'équipe, à suivre donc un entretien face à face avec Joël Thibault, aumônier des sportifs, qui nous expliquera ce qu'est un aumônier et de sa relation avec les sportifs de haut niveau comme Olivier Giroud qui l'accompagne spirituellement. Débat aussi dans cette émission, on reviendra sur du foot et les violets qui ont subi ce week-end une nouvelle défaite. La situation du TFC est-elle actuellement alarmante? Et on terminera avec un pronostic et une analyse de match et un retour sur le prono de la semaine dernière, évidemment. Petite info, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Margot Laffitte, fille de Jacques Laffitte, qui est elle aussi pilote. Elle a participé plusieurs fois au trophée Andros, qui est une sorte de série de courses sur glace façon rallycross. Mais tout de suite, il est l'heure de commencer par l'information sportive de la région. C'est avec Corinne Saint-Félix et c'est tout de suite.
L'infosport avec Corinne Saint-Félix.
40 000 euros d'amende pour le Toulouse FC en Ligue Europa.
Oui, près de 30 000 personnes se sont massées dans l'enceinte du Ramier le jeudi 5 octobre pour voir les violets affronter le club autrichien de l'ASK. Les supporters ont fêté ce retour européen à grand renfort de fumigène. La Fédération européenne n'est pas friande des démonstrations pyrotechniques. Elles peuvent causer accidents et provoquer des interruptions de match. L'UEFA a décidé de sanctionner le TFC, responsable d'avoir laissé entrer les supporters avec ces fumigènes. L'amende s'élève à 32 000 euros, auxquels viennent s'ajouter 8 000 euros de pénalité à cause du blocage de certains passages publics dans le stade. En Ligue 1, hier, le TFC s'est incliné 1-2 face au Havre au Stadium lors d'un match marqué par une évacuation qui n'a pas eu lieu, provoquée par la fumée de fumigène.
Lourde défaite pour le Stade toulousain en top 14.
Oui, les Rouges et Noirs ont affronté la section paloise au Stade du Hameau hier soir à l'occasion de la cinquième journée du top 14. Le Stade toulousain a essuyé plusieurs essais palois en l'espace de quelques minutes. Les Toulousains ne marqueront pas plus de 9 points contre les 13 inscrits par la section paloise. Ils repartent cependant avec un point bonus défensif. Après l'exploit de la semaine passée et la victoire à La Rochelle 24-27, le Castres Olympique de son côté a cette fois-ci subi une lourde défaite samedi face au Stade Français 39-16.
Les Spacers font chuter le leader de la Spike League.
Oui, samedi, les Spacers, 5e, ont enfin obtenu leur première victoire de la saison. Le match était très serré. Le score final 1-3 doit énormément à Maxime Hervoir. Prochain match, mardi, contre Tours.
Après le volet, le cyclisme et le ruthénois Johan Blanc est 31e de son premier championnat d'Europe de cyclocross.
En lice sur l'épreuve junior hier à Pontchâteau dans le Loire-Atlantique, le coureur du vélo club Rodez française a réalisé une belle performance pour sa première sélection nationale et aussi pour sa première année dans la catégorie U19. Et c'est un de ses coéquipiers tricolores, Aubin Sparfel, qui s'est adjugé la tunique étoilée au sprint avec le Hongrois Zombor Takács et le Français Jules Simon. Johan Blanc est arrivé après le nouveau champion d'Europe et il s'est classé 31e, une place très prometteuse pour l'Aveyronnais qui découvre la catégorie junior depuis à peine un mois.
Les Dauphins du TOEIC lancent un appel à l'aide.
Oui, créé en 1908 à Toulouse, les Dauphins rencontrent aujourd'hui de grosses difficultés financières en raison de la fermeture définitive l'année dernière du petit bassin d'apprentissage Alfred Nakache. La piscine n'est plus du tout réparable, il faudrait reposer toutes les faïences et le coût s'élèverait à 25 millions d'euros. Problème, pas moins de 400 enfants du club apprenaient à nager dans cette structure. Le club a ainsi perdu 100 000 euros en 2022 et la même somme en 2023 en raison du départ de ses jeunes adhérents. Sans jamais retrouver le même effectif qu'auparavant.
Victor Sauquède va recevoir le pistolet d'or.
Le Haut-Pyrénéen, originaire de Lourdes et guide de haute montagne installé à Bagnères, va recevoir le pistolet d'or, l'Oscar de l'alpinisme, le 15 novembre à Briançon pour son ascension du Pumarichis au Pakistan. Le sommet est à 6850 mètres. Il avait réalisé son ascension du 25 au 29 juin 2022 avec Christophe Augier et Jérôme Sullivan.
Top et les flops.
Paf, réalisation à l'américaine. On enchaîne les jingles et on enchaîne les chroniques. Après l'actualité en région, l'actualité sportive, on retrouve les tops et les flops. C'est un petit peu un classique dans cette émission. Le premier d'ailleurs. Et on inaugure, tenez au hasard, Coraline.
Alors mon top sera pour la section paloise qui a fait un excellent début de saison.
Original.
Alors oui, chers auditeurs, effectivement c'est original, mais c'est vrai que le match section paloise Stade Toulousain était en effet hier soir. Alors oui, chers auditeurs fans du Stade Toulousain, justement mon top ne va peut-être pas vous plaire, mais c'est un club du coin dont je vous parle ce soir. La section paloise, plutôt habituée à jouer le maintien depuis sa remontée en top 14 en 2015, fait un très bon début de saison. En effet, les Verts et Blancs se positionnent à la tête du classement à l'issue de la cinquième journée. Dernière prouesse hier soir, du coup, en témoigne à ma voix un petit peu fatiguée.
Ah, ça a dû donner hier soir. Hein.
Exactement, ouais. Ouais, c'est un petit peu, ben, c'est un courage, il faut quand même. Hein. La différence entre supporters et spectateurs, on en a déjà parlé.
Ah oui.
Donc ma voix en témoigne un petit peu, voilà. J'étais effectivement hier soir au hameau. Les Palois ont battu les Toulousains 13-9. Bien entendu, il faut être réaliste, la section est très peu impactée par les doublons. Au contraire de grosses écuries comme justement Toulouse ou bien La Rochelle. Alors pourquoi pas espérer jouer un top 10 cette année? Et mon flop, ce sera pour la grosse désillusion de Montauban dans le derby face à Colomiers. Il me semble d'ailleurs que vendredi soir, vous y étiez, Jonathan.
Oui.
Montauban recevait son voisin colomérien. Les Sapiacains n'ont pas réussi à trouver les solutions leur permettant d'effectuer des franchissements et s'imposent lourdement, 13-37. Colomiers prend, lui, le bonus offensif.
Un petit retour sur cette... Alors déjà, ce qu'il faut noter, lors de ce match Sapiac-Colomiers, enfin Montauban-Colomiers, c'est que déjà, il y avait beaucoup plus d'ambiance à la cuvette à Sapiac que à Ernest Vallon. Ça, c'est plutôt pas mal, avec des supporters, des ultras qui vraiment donnent de la voix. Et par contre, Montauban, ouais, assez fantomatique. Il y avait un match. Là, il y avait pas de match. Là, c'était attaque-défense. Et je crois que Montauban a très peu vu la moitié de terrain adverse tout au long du match. Un petit peu compliqué en tant que Montalbanais. Enfin bref, c'est comme ça. Les Colomiers a dépassé Montauban au classement. Et donc, ce qui est fait est fait. Corentin, vous avez la voix cassée, mais pour autre chose.
Ah oui, moi c'est la voix cassée, mais pour raison médicale. Mais ça va pas m'empêcher de vous parler de mes tops et mes flops. Alors le top, on va partir direction les États-Unis pour parler de la bonne première semaine de Victor Wembanyama, son transfert. Lui qui a été premier de la draft chez les Spurs de San Antonio n'a échappé à personne. Et donc le jeune prodige français a joué ses premiers matchs NBA, 6 au total, avec 20 points en moyenne, 8 rebonds et 2 assists en moyenne également. Donc c'est un très bon début pour un rookie. Donc les rookies, ce sont les joueurs qui font leur première saison en NBA. Victor Wembanyama qui porte son équipe de San Antonio, qui est à 3 victoires et 3 défaites, avec notamment une victoire de prestige, même deux victoires de prestige d'affilée contre la franchise de Kevin Durant. Et donc l'ancienne franchise de Tony Parker, les Spurs sont actuellement 7e de conférence Ouest, qui pourrait leur permettre cette saison de se battre pour une place en playoff, une place qui leur avait échappé l'année dernière, et donc pourquoi pas de voir Wembanyama déjà jouer des playoffs pour sa première saison, ça serait intéressant. Pour mon flop, on va parler mauvais perdant. Alors en studio, je ne fais pas l'affront de vous rappeler la définition de ce que c'est. Vous êtes tous déjà au moins emportés une fois lors d'une partie de Monopoly en tombant sur un hôtel rue de la Paix. Et pour vous qui nous écoutez, par pitié, arrêtez d'écouter les conseils de chanteurs de variété qui vous expliquent comment jouer au Monopoly. On embrasse Zazie. Mais nous, on va parler plutôt football puisque jeu de société. Et surtout, on va parler de Mikel Arteta, coach d'Arsenal à la fin du match contre Newcastle. C'était samedi soir à St James Park, dis donc, j'en perds mon anglais. Dans l'enceinte des Magpies, Arsenal s'est incliné sur le score de 1-0 au terme d'un match âpre, disputé et même très physique. Problème, les Gunners ont encaissé un but casquette, comme on dit, à la 64e minute de jeu, un but qui a fait l'objet non pas d'une, non pas de deux, mais bien de trois enquêtes par la VAR, une potentielle sortie du ballon en 6 mètres, une potentielle faute d'un joueur de Newcastle sur le défenseur d'Arsenal, et enfin un potentiel hors-jeu du buteur. Tous les trois retoqués par la VAR, but validé, après 4 minutes de check par le quart régie. Mikel Arteta qui s'est lâché à la fin du match, expliquant que ce qui s'est passé était honteux, la façon dont le but a été marqué, en première ligue, le championnat que l'on présente comme étant le meilleur au monde, cela fait 20 ans que je suis dans ce pays, et maintenant j'ai honte, c'est une honte. Alors, on peut comprendre la frustration de l'Espagnol, mais est-ce qu'il n'y est pas allé un petit peu fort quand même, l'ancien disciple de Guardiola ?
Ah ouais, j'ai pas menti quand j'ai dit que vous allez voyager avec les tops et les flops. Là, pour le coup, on a fait un petit peu d'Angleterre, un petit peu des États-Unis. Victor Wembanyama, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas. Petite mensuration, 2m24 de taille, c'est pas mal. 110 kilos, on dirait qu'il en fait 90 de moins, c'est incroyable. Envergure, donc d'un bras à un autre, comme ça, le juste prix en studio, Coraline.
2 mètres
ah, un peu plus, Corentin.
Moi, j'aurais dit 2,35, un truc comme
2,43.
Ça.
2,43. C'est-à-dire qu'il tend les deux bras entre ses deux majeurs. Il y a 2,43 mètres. Voilà, si vous avez un problème avec un meuble, n'hésitez pas à l'appeler, il va venir. Voilà, c'est sacrément, Victor Wembanyama, un nom que vous allez entendre, évidemment, notamment, peut-être, à ses apparitions en équipe de France. De basket, en tout cas, on l'espère. Justement, moi, je vais rester du côté des États-Unis avec Léon Marchand. De la natation, Léon Marchand qui a eu 3 victoires ce week-end, une performance XXL du Toulousain, notamment en 100 yards papillon en seulement 44 secondes et 66 centièmes, qui devient le record de son université, donc encore un record pour le Toulousain et pour le flop. Alors c'est pas vraiment un flop, mais c'est plutôt une déception, hein. On va rester dans la natation et justement à Toulouse avec les Dauphins du Touareg. Qui lance un appel à l'aide. On l'a entendu dans le flash de Corinne Saint-Félix. Ça fait un petit peu mal d'entendre ce genre d'informations, notamment à Toulouse. Voilà, on a mal de voir cette institution centenaire en difficulté et qui a sorti des champions comme Léon Marchand. Voilà. C'était le petit cri de cœur. Oui. C'est bien cri de cœur.
Exactement. Léon Marchand peut être qualifié pour les JO?
Oui, mais son père d'ailleurs, son père n'a pas eu la médaille en 96 et 2000, médaille d'or en natation, alors je sais plus quelle catégorie exactement, il me semble que c'est aussi en papillon, mais Léon Marchand, lui, pourra essayer de l'avoir à la place de son père, quelques années plus tard, 23 ans après, 24 ans après, voilà, affaire à suivre, on le suivra, de toute façon, les Jeux Olympiques, on verra, il y aura plein de chroniques différentes sur tous les sports qui seront représentés, et ça sera à suivre, bien évidemment, dans Esprit Sport. Tout de suite, il est l'heure du face-à-face.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, en face-à-face, nous retrouvons l'aumônier des sportifs, Joël Thibault. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, et vous êtes l'auteur du livre L'aumônier des champions aux éditions du Cerf. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un aumônier ?
Alors, un aumônier du sport en particulier, c'est une personne qui est mise à disposition des sportifs dans un cadre de compétition ou dans un club. C'est souvent le cas dans les Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, Championnats du monde d'athlétisme ou d'autres compétitions, où les sportifs qui se retrouvent loin de chez eux peuvent avoir besoin d'assistance spirituelle, de conseils, d'écoute, mais aussi d'un lieu pour célébrer leur foi s'ils sont croyants, un lieu pour se recueillir, pour méditer. Et donc l'aumônier sert de vis-à-vis pour ces sportifs, parce que ils sont souvent seuls et trimballés d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, et il est difficile d'avoir des repères. Après, un aumônier chrétien et protestant pour ma part est libéré par son église locale pour avoir un temps dédié aux sportifs qui ont des rythmes de vie particuliers, comme je le disais. Donc ça peut être aussi un aumônier qui est mis à disposition des sportifs à leur demande individuellement, mais aussi bien il peut être accrédité dans un club comme dans un grand événement. Et donc une de ses missions est de faire preuve d'empathie et d'écoute bienveillante pour ces personnes qui sont très, très sollicitées et qui peuvent vivre des tiraillements intérieurs.
Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers les sportifs plus particulièrement ?
Bah, c'est mon vécu, tout mon parcours moi-même de sportif, qui avait ce rêve d'être sportif de haut niveau, qui est suivi cette voie avec un parcours d'élite dans le football, puis en tant qu'éducateur aussi avec une formation d'entraîneur dès l'âge de 15 ans, puis après le STAPS, la faculté de sport, avec une réorientation pour être professeur de PS. Et donc au milieu de tout ça, j'ai vu tous les défis qu'il y avait derrière le sport, mais aussi tous les moments de solitude, tous les temps d'échec, les temps de remise en question, et puis les temps de un peu dépressif qui peut y avoir. Et puis au milieu de tout ça, le fait que la performance sportive en elle-même ou le résultat sportif ne rendait pas heureux. Et moi, ça m'a amené vers une quête spirituelle qui m'a conduit vers le Christ et la découverte de l'Évangile qui a transformé complètement mon cœur qui était abattu par certains moments d'échec, comme je l'explique dans mon livre.
On sent chez vous une réelle envie de transmettre, d'être à l'écoute des autres.
Alors oui, ça a été vraiment, vraiment ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu un moment où moi, je faisais tellement de sport dans ma vie et que tout tournait autour du sport. Tous les week-ends étaient pris. Que j'ai eu un besoin de me mettre à l'écart, de prendre un peu de hauteur et de stopper le sport de compétition, en l'occurrence le football pour moi. Et dans cette période où j'ai dit stop, Dieu a pourvu à une rencontre extraordinaire qui était que j'ai eu un grand frère dans la foi qui était footballeur professionnel au SCO d'Angers, qui m'a pris sous son aile et qui a pu, avec d'autres dans l'église, me conseiller, m'accompagner, m'écouter et puis m'aider à replacer le sport dans une saine perspective aussi et à redécouvrir que c'était un don, un cadeau de Dieu. Et tout ça m'a amené à me former comme aumônier auprès de la jeunesse en milieu sportif, puis après comme aumônier auprès de sportifs de haut niveau. Et donc c'est là qu'est née cette vocation particulière, parce que ça a démarré il y a déjà 20 ans et il y avait tout à défricher et malheureusement c'était pas forcément bien vu à la fois dans les clubs sportifs comme dans l'église. Donc voilà, c'est un travail pionnier. Mais où petit à petit, j'ai pu accompagner, soutenir des sportifs, étant moi-même sportif et pouvant comprendre les mécanismes de ce qui se passait dans leur cœur.
Vous avez aussi mis les pieds dans le sport amateur et justement la religion, est-ce qu'elle n'est pas mise de côté, si je puis dire, à cause du sport ? Parce qu'on rappelle qu'il y a beaucoup d'événements qui sont le week-end et notamment le dimanche. Quelles sont les clés que vous avez pour faire en sorte que ces deux domaines cohabitent ?
Alors aujourd'hui, pour certains sports, les fédérations se sont adaptées. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec l'église ou pas, mais à mon époque, oui, on jouait beaucoup le dimanche et c'est vrai que on jouait tôt le dimanche matin et ça nous empêchait avec les longs déplacements d'être présents sur la journée du dimanche pour pouvoir aller à l'église. Et donc finalement, ça a créé une distension aussi avec la foi. Il y avait un désintérêt de mon côté et c'est vrai que pour certains, bah, le fait de plus être au contact aussi avec des enseignements chrétiens et toutes les tentations qu'il peut y avoir dans le milieu du sport, ça crée une distance. Maintenant, aujourd'hui, les jeunes jouent beaucoup plus le samedi parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient du mal à se lever le dimanche matin. Donc aujourd'hui, c'est possible de lier les deux, c'est compatible. Après, il y a cette dimension du sport amateur où moi, j'ai eu à faire des choix. Quand j'ai repris en foot amateur, mais à un bon niveau régional, avec certains déplacements, avec des matchs le dimanche après-midi, mais à un certain horaire qui faisait qu'avec mes engagements aussi de pasteur, je ne pouvais pas tout le temps être présent au match. Donc j'avais un arrangement aussi avec les coachs et demandais qu'à certains rendez-vous, si je pouvais arriver un petit peu plus tard, pour avoir le temps de vivre l'église, de vivre le temps de célébration, et surtout si c'était moi qui faisais le message. Et à un moment donné, avec des choix de vie de famille, en ayant 4 enfants, le sport le dimanche, je l'ai arrêté et je me suis réorienté vers d'autres pratiques comme le futsal ou le foot loisir qui permettaient d'avoir des matchs en semaine le soir et ne plus empiéter sur le week-end. La problématique existe quand on est sportif de haut niveau, que c'est notre métier. Donc je pense que c'est comme tout, c'est une question d'équilibre à trouver, et c'est pour ça que des sportifs de haut niveau peuvent mettre du temps à part en ayant un accompagnateur spirituel, qui est l'aumônier, qui peut être là pour leur faire des temps d'études bibliques, où ils peuvent avoir des temps de prière accompagnés, en dehors des temps d'office traditionnels. Mais aussi, c'est important de les encourager à avoir une vie d'église locale, où ils peuvent rencontrer d'autres personnes et avoir d'autres discussions que juste le sport, et de rencontrer que des fans, mais de vraiment de rencontrer d'autres personnes qui vivent aussi une foi vivante et qui peut les enrichir.
Est-ce que vous trouvez que la parole des sportifs en général sur leur religion se libère un petit peu plus en 2023?
Alors moi, je pense que la parole se libère, et depuis quelques années maintenant, ce sont certains médias qui boycottent. J'entendais encore hier un témoignage d'une sportive que je connais bien depuis quelques années, et je lisais une interview avec son parcours, et je sais que à un moment dans son parcours, la foi a été une réorientation dans ses choix de carrière, et je sentais que c'était là dans l'interview, mais c'était pas présent. Donc j'ai posé la question, je dis, mais est-ce que t'as pu parler de ta foi? Oui, mais ça a été coupé au montage, ou ça a été pas retranscrit. Et c'est dans différents sports, il n'est pas rare que j'entende ça. Donc c'est comme s'il y avait que Olivier Giroud qui a le droit d'en parler publiquement, mais les gens qui jouent simplement à un niveau national, dès qu'ils en parlent, ils sont censurés. Donc là, il y a quelque chose qui me dérange chez certains médias sur cette liberté d'expression, liberté de croyance et dans les parcours de vie. Alors après, oui, il y a de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux, de sportifs aussi qui en parlent librement autour d'eux, et ce qui fait que certains médias peuvent s'y intéresser aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que les vestiaires ne sont pas neutres en soi. Il y a beaucoup de croyants et de gens qui font des prières discrètes, puisque malheureusement il n'y a pas d'espace encore.
Mais vous sentez qu'il y a une volonté de s'ouvrir, de vouloir en parler du côté des sportifs?
Ah ben, les sportifs ont de plus en plus envie d'en parler. Alors après, il y a différents phénomènes, hein. Il y a ceux qui ont une foi authentique, enracinée dans les textes de la Bible, et puis il y a ceux qui ont une foi plus légère, qui est plus une forme de superstition, comme une patte de lapin, comme une manière de se protéger, et puis d'invoquer le Tout-Haut pour qu'il nous récompense. Donc il faut faire... Il y a de tout. Il y a des chemins de vie. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc il y a des choses qui demandent du temps. Quand on est dans une carrière, on est prêt à s'attacher à tout. Mais maintenant, la foi est avant tout une question de salut et de transformation aussi intérieure. Donc ça doit porter du fruit et se voir dans le temps.
Vous nous avez parlé d'Olivier Giroud, vous êtes en contact avec plusieurs sportifs de haut niveau, du foot, du rugby et bien d'autres encore. Ils sont dans un monde où l'argent, le soin de l'image, du dopage ou même de la corruption se côtoient. Comment vous les aidez à garder les pieds sur le plancher des vaches?
Alors, ça c'est, comme je l'explique Dans mon livre, il y a différents types de relations qu'on peut avoir. Ça va dépendre aussi de eux, leur degré d'ouverture. Moi, je suis là pour écouter, poser des questions, après conseiller. Et les conseils que je vais donner sont tirés de la Bible. Donc, ça va être aussi leur désir de vouloir creuser ces textes. Et puis, une des valeurs qui est sûre et qui est certaine, si ils veulent connaître certains sur leurs réseaux sociaux, 100% Jésus ou follower of Jesus ou des choses comme ça, Jésus, sa qualité première, c'était l'humilité. Et donc ça doit interpeller sur la manière de considérer les autres, de se considérer soi-même. Jésus était humble alors que il est le Dieu qui s'est fait chair, qui s'est incarné. Donc même la définition d'humilité n'est pas la même que pour nous. Nous, l'humilité, c'est réaliser que on est faillible, qu'on est faible, qu'on a des limites. Ce que Dieu n'a pas, et c'est pour ça qu'on doit aussi se tourner vers lui avec respect, et puis changer notre regard sur les autres, les regarder aussi comme étant des êtres humains créés à l'image de Dieu, des vis-à-vis. Il n'y a pas de sentiment de supériorité à avoir, et puis ce qui permet de garder cette humilité, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi de ce que j'ai découvert. C'est que le don qu'on a, qu'il soit dans le sport, la musique, le théâtre ou quel qu'il soit, est un don de Dieu. En fait, c'est un don qui peut se cultiver et se développer, mais il y a quelque chose qui a été déposé en nous, et on croit dans la foi chrétienne que s'il y a un don, il y a un donateur, et que ce donateur est le créateur des cieux et de la terre et de l'être humain. Donc il y a une forme de reconnaissance de ce cadeau qui a été fait. Et donc on n'a pas à s'enorgueillir, mais plutôt à le partager avec les autres et à le faire développer dans ce sens de, comme j'essaye d'expliquer dans tout au long de mon livre, qu'est-ce que veut dire réellement rendre gloire à Dieu, parce que beaucoup de sportifs en parlent, mais qu'est-ce que ça veut dire si on creuse plus que ces trois mots, quoi.
C'est bien, on voit que au moins les sportifs ne sont pas des divas comme on peut l'imaginer. Le sport,
ils peuvent être des divas. Il y en a dans tous les milieux. Il y en a malheureusement. Après, justement, certains sportifs ont décidé de se créer une image de leur propre dieu. Eux-mêmes sont des demi-dieux, voire des dieux. Certains jouent avec les codes, alors certains avec ironie, comme Zlatan, quand il avait rencontré le pape, il a dit enfin le pape a rencontré Dieu, puisqu'il avait vu
Zlatan. Ah oui, un personnage de Zlatan,
voilà.
Oui.
Il y a beaucoup d'ironie, mais on voit qu'il y a des égos surdimensionnés, comme c'est partout. Mais celui qui se revendique de la foi chrétienne ne devrait pas se comporter comme une diva.
Vous travaillez aussi avec des sportifs olympiques, vous le dites dans votre livre. Comment vous adaptez cette approche de cet événement pour les sportifs? Parce que c'est un événement pour lequel certains se donnent pendant 4 ans et tout peut disparaître en un claquement de doigts. Comment vous préparez ça avec eux?
C'est vrai que c'est un long parcours. Une Olympiade, ça se prépare même pendant 6 ans, voire toute une vie pour certains. Donc c'est un chemin où il faut pouvoir travailler sur leur identité. Qu'est-ce que Dieu dit de qui ils sont, comment s'enraciner vraiment dans quelque chose dans une foi et des vérités qui soient solides pour pouvoir arriver en paix le jour J. Et donc il y a toute une préparation en amont qui est là, et puis après c'est aussi faire confiance dans ce qu'on croit, nous, dans notre foi chrétienne et dans notre théologie. C'est la souveraineté de Dieu, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que les plans de Dieu sont plus grands que nos plans, et que dans ça, malheureusement, d'un point de vue humain, la blessure ou la non-sélection peut faire partie de ce plan pour les faire grandir, et que il y a quelque chose qui fait que il n'y a pas toujours un succès assuré à la fin. Je l'ai vu dans pour la Coupe du Monde de rugby, où on a accompagné un sportif avec avec son église locale, avec son pasteur à Montpellier, qui était sélectionné Paul Willemse pour le 15 de France pour faire la Coupe du Monde de rugby. Tout est en place et ils rentrent chez lui. Ils avaient quelques jours de repos et là il se blesse et c'est fin de Coupe du Monde.
Ça doit être très dur à vivre, oui.
Donc voilà, c'est tous les feux étaient ouverts et puis dernier moment ça se referme. Donc là, oui, il faut savoir qui est Dieu, il faut savoir qui on est et se réfugier dans ses vérités pour tenir bon, parce que une Coupe du Monde c'est comme des Jeux Olympiques, hein. ça n'arrive que tous les 4 ans et pour certains quand c'est raté il y aura pas de deuxième chance. Donc après il faut savoir qu'est-ce qui est important dans notre vie, donc c'est tout un cheminement et il y a toutes des phases de transition à accompagner parce qu'il y a une forme de deuil dans cela.
C'est le sportif qui n'a pas réussi à accomplir ce pourquoi il s'est entraîné pendant longtemps.
Voilà, exactement. Donc il faut pouvoir être à l'écoute et l'aider à verbaliser et à remettre ça dans la prière. Et pour certains, ils auront aussi besoin d'aller voir un psychologue, voir un psychiatre pour aller pour continuer ce travail. L'aumônier n'est pas contre ce travail-là et vient en complément aussi de cela.
Le sport est de plus en plus représenté dans le monde actuel. Le foot est extrêmement populaire. C'est le sport par excellence. Pensez-vous, comprenez-vous que pour certains, le sport peut être une véritable religion ?
Le sport peut devenir un dieu, une religion, ce qu'on appellerait dans la Bible une idole. Ça a été le cas dans ma vie. Il y a un côté très très addictif. Il y a un côté dopamine en termes de motivation, de satisfaction que ça peut créer sur
de ferveur
le moment.
Aussi.
Et après, si on regarde, alors ça c'est si on se pointe la ferveur, c'est si on se positionne aussi du côté des supporters.
Des supporters, évidemment.
De donner des louanges aux joueurs qui chantent des hymnes avec ce rassemblement semaine après semaine dans ce qu'on pourrait appeler un temple qui est devenu le stade, mais avec cette notion d'incertitude, en fait. C'est là où le sport se distingue de la religion et notamment de la religion chrétienne qui prône une espérance avec une certitude, avec une victoire sur la mort qui est acquise, avec des choses qui sont déjà là et pas encore, mais avec la foi et l'espérance de la vie éternelle, et donc une victoire qui est assurée par le Christ, alors que même la meilleure équipe, si on prend en France, ça soit le PSG ou l'OM, eh ben, quand elle commence un match sur le papier, elle peut être plus forte, mais à la fin, elle peut perdre. Donc il y a toujours cette incertitude qui est là, même si on peut placer notre foi dans l'équipe, on n'est pas sûr qu'elle réponde aux promesses. Alors que la foi chrétienne, comme elle est décrite, bah Jésus nous fait des promesses et il accomplit ses promesses et ce qu'il déclare est la vérité et c'est lui qui transforme les vies, qui transforme les cœurs. Donc ça c'est quelque chose de solide, alors que le sport est quelque chose d'éphémère qui produit des émotions intenses, hein. Qu'elle soit des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs, elle peut amener dans des moments de tristesse, voire des moments de colère et qui peuvent nous faire sombrer, comme elle peut emmener dans des moments de joie et d'extase, qui eux-mêmes, s'ils sont mal gérés, peuvent nous emmener dans des moments de dérive et d'orgueil, qui vont nous faire des mauvais choix dans notre vie et des fois malheureusement que l'on peut payer un certain temps en termes de réputation ou de mauvaises décisions qui ont été prises dans ces moments d'extrême enthousiasme.
Eh bien merci beaucoup Joël Thibault, il est déjà l'heure de se quitter. Merci d'avoir été avec nous, je le rappelle, vous êtes aumônier des sportifs, vous avez aussi écrit un livre, L'aumônier des champions, qu'on retrouve aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bon courage pour la suite, pour tout votre travail.
Merci et bonne continuation.
Voilà, on aura abordé en cette semaine des métiers du sport, eh bien, les accompagnateurs spirituels, les aumôniers sportifs. Dans quelques instants, on se retrouve pour le débat, on va parler du TFC, restez, ça arrive juste après ça. Mais peut-être que tout de suite ça va changer toute l'ambiance.
Esprit Sport, la chronique.
On va. Y a pas de chronique, Coraline. Mazette, vous ne lisez pas le conducteur.
Si, justement, je lisais le conducteur.
Il y a marqué chronique, point d'interrogation.
Eh ben alors, point d'interrogation, faisons-la ou faisons-la pas?
Faisons-la pas. Ah, on la refait. On est happy sur Esprit Sport. Oh, cette réalisation à l'américaine, c'est incroyable. Tout de suite, justement, on est à pipe, mais pas tellement, parce qu'on va se poser une question. La situation actuelle du TFC est-elle alarmante? Alors, si vous ne savez pas pourquoi, bien, on vous donne tout de suite les détails. les détails. Le TFC a perdu face au Havre ce week-end au Stadium. Première défaite à domicile pour les Violets. 2-1, qui ont pris un but à la 83e et à la 85e minute par Mohamed Bayo. Voilà, le TFC qui a quelques actualités, notamment la Ligue Europa qui approche à très grands pas, c'est ce jeudi au Stadium. Il y a aussi cette histoire de revente qui arrive au TFC, parce que oui, il y a encore cette histoire. Corentin, je fais appel à vous pour commencer. La situation du TFC actuellement, à 11 journées de Ligue 1, est-ce qu'elle est alarmante?
Alors, position de Suisse dans ce débat, même si c'est une posture que j'aime pas trop avoir là sur ce que je vais dire, mais personnellement, je suis quand même inquiet pour le TFC.
En tant que supporter ou en tant que quelqu'un qui analyse les matchs?
J'ai quand même plutôt tendance à voir le verre à moitié plein quand on parle du TFC, parce qu'il y avait quand même beaucoup de bonnes choses qui étaient faites. Une direction du club qui avait remis justement les Violets sur les bons rails, un recrutement qui... parfois, peut-être avec la data, pouvait sembler un peu... j'ai pas forcément les mots pour le décrire, mais on pouvait ne pas avoir forcément confiance. Compliqué. Et finalement, on nous a donné tort avec notamment les Van Den Boomen, etc. Là, je trouve quand même que depuis la remontée en Ligue 1, hormis le titre hormis la Coupe de France, c'est quand même assez compliqué parce qu'on a perdu beaucoup de joueurs. Van Den Boomen, Spierings, qui est revenu après une expérience compliquée à Lens, mais qui va repartir à la fin de la saison, très certainement, hein, au prix où il a été, au prix où il pourrait être racheté. Les Toulousains ne peuvent pas se l'offrir. Et même l'ancien capitaine de Jagereux. On perd le gardien, Maxime Dupé, qui fait une saison de dingue. Alors,
oui, mais pour Guillaume reste.
Les Toulousains ont quand même eu des éclaircies dans ce ciel gris, avec Hogg qui aurait dû être dans les barres. Finalement, Guillaume Rest est sorti du bois et amène beaucoup de sérénité aux Toulousains en défense. Mais bon, ça n'empêche pas quand même les défaites qui sont arrivées récemment. Et puis, comme je l'ai dit, il y avait Siro qui a été remplacé numériquement par Spierings. Mais encore une fois, voilà, Siro n'est pas le responsable, bien qu'il ait cristallisé à un moment un peu l'attention des supporters. Mais on sent quand même que cette équipe, elle a du mal à se trouver, que le jeu un peu alléchant qui était censé être proposé par le coach qui remplace Philippe Montagnier, il prend, mais la réussite, elle n'est pas là. Il manque de cadre pour tenir cette équipe, et puis aujourd'hui, on joue le maintien avec un calendrier qui est plus chargé que les concurrents directs, avec cette Coupe d'Europe où, éventuellement, peut-être le TFC va espérer une deuxième place, voire une troisième place, être reversé en Europa League Conférence, mais... Moi, j'ai du mal à trouver du positif aujourd'hui pour le TFC.
Alors moi qui vous parlais de relégation du TFC qui joue le maintien en début de saison, on me dit oui, mais non, mais ça va se faire tranquillement. Là, maintenant, on prend conscience que c'est une réalité. Le TFC perd à domicile pour la première fois de la saison face au Havre qui, lui, remonte de Ligue 2. Perd en plus d'une façon un petit peu dommage puisque c'était plutôt un bon match dans l'ensemble des Violets. Mais un match dure 80 minutes. Et ils ont pris deux buts dans les 10-12 dernières minutes. Corentin, pourquoi?
Alors, après, vous n'avez pas la solution, mais... Le Havre, c'est quand même une équipe qui est très bien construite, avec un projet de jeu qui peut faire penser, enfin en tout cas avec un projet de club, une construction d'équipe qui peut faire penser justement au moment où le TFC a été racheté par Redbird, où Comolli a été installé, où une direction a pris à nouveau sa place. Le Havre, c'est piloté au niveau de sa direction par Mathieu Bodmer, qui fait un travail extraordinaire, qui est un directeur sportif. Je pense que beaucoup de clubs français devraient s'arracher parce qu'il a une très bonne vision du football. Ils ont recruté malin, ils ont recruté des joueurs qui correspondaient au style qu'ils voulaient mettre en place. Et ils ont recruté aussi des joueurs qui pouvaient s'intégrer dans le groupe du Havre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Havre est une équipe qui a eu un peu de mal à démarrer sa saison en Ligue 1, ce qui est normal pour un promu. Mais qui est en train aussi d'aller faire des petits coups, comme ils ont fait au Stadium.
Comme Clermont a pu le faire et Clermont qui est toujours en Ligue 1.
C'est ça, mais en tout cas, aller prendre des points précieux chez un concurrent direct, c'est très très important, surtout dans une Ligue 1 qui est beaucoup plus courte, avec un championnat qui est beaucoup plus dense, et surtout avec toujours 3 descentes. On aurait pu penser au passage à 18 équipes qu'on suivrait le modèle de la Bundesliga avec une descente directe et une équipe qui jouerait les playoffs. Et puis finalement, on va rester avec 2 descentes. Donc il va falloir faire très attention pour le TFC parce que La bataille pour le maintien, elle va être très compliquée, surtout si en plus on vient mêler des affaires entre guillemets extra-sportives. Hein, je parle de la potentielle vente du club. C'est
Revente, du
sûr que
coup.
pour. Oui, c'est
Encore,
ça,
hein.
de la
Ça fait pas longtemps que
potentielle
Red Bull
revente,
Capital est là.
on n'y est pas encore. Mais par contre, c'est vrai que pour le club, ça peut poser problème avec des joueurs qui peut-être vont se demander est-ce que le coach va partir si le club est vendu en janvier? Est-ce qu'il y aura de l'argent qui sera mis? Est-ce que je serai prolongé? Et puis de suite, le joueur, il pense peut-être un petit peu moins au terrain, il pense peut-être un petit peu moins au football, et ça, il peut se passer ce qui s'est en train de se passer à Lyon avec la succession de Jean-Michel Aulas, qui a été très compliquée,
Après,
et voilà,
Jean-Michel
et une
Aulas,
équipe
il
qui est
était
en
là
perte.
depuis 30 ans. Là, Red Bird Capital, ils sont là depuis beaucoup moins longtemps. Il y a peut-être moins d'affect encore avec cette présidence.
Oui, mais il y a des joueurs qui n'ont connu que ça de Redbird. Des joueurs qui sont arrivés grâce à Redbird, qui sont là grâce à la data. Si aujourd'hui vous faites venir un nouvel investisseur, peut-être qu'il va balayer d'un revers de la main tout ce qui a été mis en place. Et ça peut créer un peu des situations délicates. Et puis on voit surtout que, notamment, j'allais prendre l'exemple d'un joueur qui est parti du TFC, qui vivait un moment compliqué à l'Ajax Amsterdam, Branko van den Boomen, qui là est en train un peu de retrouver des couleurs sous justement le maillot ajacide, avec une belle victoire pour cette équipe qui était dernière du championnat d'Eredivisie, et Van den Boomen qui a été élu homme du match. Donc voilà, les joueurs qui sont partis du TFC, pour l'instant, à part Spierings qui a eu une mauvaise expérience et qui est revenu, et je pense que c'était surtout une très bonne opportunité pour le TFC et pour le joueur, tout le monde a pu se mettre d'accord. Mais voilà, les joueurs sont partis et peut-être qu'il aurait fallu faire un petit peu plus pour les conserver. Van den Boomen, il était payé encore avec un salaire de niveau Ligue 2 quand il était à Toulouse. Les Girondins de Bordeaux, à un moment, s'ils jouaient la montée, ils auraient bien aimé avoir Spierings. Donc ça veut dire quand même que, en termes d'ambition, pour l'instant, on est quand même plus présent dans les mots que dans les actes, avec pas forcément de très gros transferts. On essaie de recruter malin pour pouvoir peut-être revendre facilement. Et voilà, je pense que peut-être qu'il aurait fallu vraiment de l'expérience pour compenser le départ de certains. On a Anthony Rouault qui est parti de la défense centrale. Alors Logan
Parti en
Costa, c'est
Allemagne,
très
Anthony
bien.
Rouault, c'est ça?
Comment?
Il est parti en Allemagne.
Il est parti en Allemagne, Anthony Rouault. Mais Logan Costa, c'est un super joueur. Mais peut-être qu'il n'a pas les cannes pour tenir toute une saison et qu'il aurait fallu, là aussi, renforcer la défense centrale. Nicolas Hyssen, peut-être qu'il a besoin de souffler de temps en temps. Le maintien, l'Europe, c'est une saison qui est très longue, qui va être très dure pour les Toulousains, je pense.
Après, Toulouse n'était pas prédestiné à jouer l'Europe.
Non, mais
C'était
par
pas
contre.
prévu par Red Bird Capital que ça arrive aussi vite, d'où le fait qu'aujourd'hui ça soit alors à la revente à voir, mais pour l'instant il n'y a rien de clair et très défini. Est-ce que alors on va spéculer, je sais que Erwan qui va écouter cette émission ne va sûrement pas supporter ce que je vais dire, mais est-ce que peut-être la situation du club et la mise en vente inquiète en interne? Est-ce que vous pensez que ça peut jouer aussi sur le mental des joueurs?
Moi, c'est sûr. Je suis persuadé que les joueurs ne sont pas forcément sereins à l'idée d'une vente du club. Encore une fois, un joueur qui est venu parce qu'on lui a dit on t'a recruté parce que tu es le joueur qui fait X% de passes réussies dans les 40 derniers mètres sur un terrain, c'est très bien. Mais si un jour il y a un nouvel investisseur, nouveau coach qui arrive avec un nouveau staff, qui a envie de jouer un jeu différent, mais ben peut-être que
Ça remet des
Siro,
incertitudes.
Gilabert, tout ça, on va leur dire mais en fait. C'est parti, au revoir, on vous veut plus. Ou alors peut-être que l'investisseur, il va mettre plus de sous aussi sur la table et qu'on va dire, bah attendez, là au milieu de terrain, on a une opportunité à 5 millions d'euros et pas à 500 000 euros. On va aller chercher un joueur qui est intéressant, enfin, ou essayer d'aller faire des prêts malins auprès d'autres équipes. Enfin, voilà, je sais pas, mais je pense quand même que ça doit jouer un changement comme ça, même dans l'ambiance générale du club, c'est-à-dire que les salariés, les membres du staff, les proches, enfin voilà, tout ça, ça fait partie de la vie d'un groupe, de la vie d'une entreprise qu'est un club de foot aujourd'hui. Et je pense que ça perturbe un petit peu tout le monde. De là à dire que ça vient encore occuper tous les esprits, non. Mais je pense qu'entre jouer le maintien, est-ce qu'il y aura un nouvel investisseur, oui ou non? Est-ce que ça va créer des opportunités, oui ou non? Est-ce que les joueurs vont rester attachés au club ou est-ce qu'ils vont essayer de vite trouver une porte de sortie en janvier? Ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont se qualifier ou pas? Est-ce qu'ils vont imaginer, ils
Vous
font
pouvez respirer hein, si vous
comme.
voulez. Hein. Vraiment, là, vous êtes parti, on vous a plus rattrapé, Corentin.
Moi, j'espère qu'ils se qualifieront, mais j'émets l'hypothèse d'un scénario un peu catastrophe comme il est arrivé à Marseille l'an dernier en Ligue des Champions, où ils avaient une troisième place qui était acquise et finalement l'aventure européenne ne se prolonge pas. Le moral des troupes est en baisse, on se retrouve avec un TFC qui est 16e. Enfin, qu'est-ce qui se passerait en janvier à partir de là, après la trêve?
Il y a Coraline qui est en train de s'endormir.
Il faudrait appeler Pascal Duprat.
Il est parti. Excusez-moi, Corentin, il y a Coraline qui est en train de piquer du nez. Voilà. Peut-être à cause du déplacement ou un mot. C'est très intéressant, Corentin. On va écouter votre avis, Coraline.
La question.
Corentin, c'est très précis. Merci beaucoup. On reviendra vers vous dans quelques instants, évidemment.
Oui, dans pas longtemps, parce qu'en effet, le foot et moi ne sommes pas bons amis. Mais la question était la situation actuelle du TFC est-elle inquiétante? Malheureusement, en effet, il y a peu, la Ligue 1 est passée de 20 équipes à 18. Donc, forcément, ça met les équipes qui jouaient plutôt la fin du tableau. En difficulté. Donc oui, la situation actuelle du TFC, elle est inquiétante. Malgré tout, les stats là, par exemple, si je prends le dernier match là face au Havre, les stats sont pas non plus catastrophiques. 4 à 5 occasions manquées, certes, mais on se crée des occasions. On arrive à se créer des occasions. C'est quand même déjà une bonne chose. Les stats encore, on peut en parler encore. Les 65%.
Il n'y a aucun débat en fait. Vous êtes d'accord que la situation est alarmante, même au bout de 11 journées.
Mais bien sûr, mais c'est justement le problème aussi qui se posait quand on a passé la Ligue 1 de 20 à 18. Forcément, il y a des équipes qui allaient en pâtir et c'est normal. Mais il fallait passer cette Ligue 1 de 20 à 18. On est d'accord.
C'est pas de la faute à la Ligue 1 qui est passée à 18 clubs, que le TFC ils sont mauvais, ils tiennent pas un match 90 minutes.
Non, mais peut-être que
ils sont pas mauvais d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai une bêtise. Mais
ils sont mauvais 10 minutes. Sauf que ils sont bons 80 minutes. Sauf que c'est pas un match de rugby, c'est un match de foot. Donc à un moment donné, voilà.
On sait que le rugby et vous, c'est une longue histoire d'amour. Le fait que Guillaume Reste soit là, c'est un très bon gardien. On l'a vu. Hein. Le fait qu'on est qu'à la 11e journée et le fait que Carlos Novel a annoncé que c'était la pire journée depuis son arrivée. Ça veut dire qu'il a les clés pour la suite. Ça veut dire qu'il a peut-être les clés pour ne plus revivre ce genre de journée. Il y a quand même quelques signes qui fait que on va attendre la saison hivernale. Le TF sera 16, 17, 15e. Et puis sinon, ils vont se relancer. Peut-être que la pause cet hiver va calmer un petit peu tout ça, va remettre les pendules un petit peu à l'heure. Peut-être que c'est le décalage horaire aussi, on ne sait pas. Peut-être que là, pour l'instant, c'est dans le dur. C'est ces matchs de début d'hiver compliqués. Et peut-être que ça va revenir. Peut-être que la machine va se relancer.
Non, mais ça. Est-ce que l'entraîneur aussi n'est pas sous la pression d'une potentielle vente? Et d'un potentiel poste.
C'est vrai, parce que s'il y a un rachat, peut-être qu'il va pas suivre.
Exactement,
machin,
tout à fait.
Montagnier, est-ce qu'on regrette Montagnier ici, dans le studio, là? Répondez pas tous à la fois, je prends un DVD, merci. Coraline, est-ce qu'on regrette Philippe Montagnier?
Non.
D'accord. Corentin?
Oui.
Ah oui, c'est très court. Oh, vous êtes vexé, Corentin.
Non, mais après, on peut étayer, mais je pense que Montagnier avait quand même l'amour des joueurs et avait l'amour du public avec lui. Je pense qu'il y avait quelque chose qui s'était fait avec ce groupe. Il aurait mérité de faire une saison de plus, de jouer l'Europe avec cette équipe-là. Et voilà, je pense que ça aurait été bien pour l'histoire et bien pour le club. Après, on ne saura jamais.
Hein. Vous avez parlé de recrutement, Corentin. Est-ce que ce n'est pas le moment d'avoir un prêt, pas un prêt d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de club, mais d'avoir un contrat avec Sissoko qui est parti de Montpellier d'une manière un petit peu compliquée. Il y a eu des rumeurs de bagarre avec l'entraîneur, ce qui s'avérait plutôt faux, voilà. Une histoire comme ça. Est-ce que c'est pas le moment de se jeter sur ce genre de joueur qui, avec son expérience, le héros de France-Ukraine 12-13, voilà, le héros qui a qualifié l'équipe de France pour la Coupe du Monde au Brésil. Est-ce que c'est pas le moment de se jeter sur ces joueurs d'expérience avec ce calibre qui puisse apporter ce caractère, ce capitana qui manque dans cette équipe du TFC?
Le problème d'un joueur comme Mamadou Sakho, c'est quand même là le contexte de son départ de Montpellier. Hein. C'est-à-dire que s'il s'est battu avec le coach, bon, je le vois mal faire entrer un loup dans la bergerie, hein, pour dire comme ça. Si c'est un joueur qui doit créer des problèmes avec un groupe, c'est compliqué. Mais oui, il faudrait peut-être aller chercher un ou deux joueurs d'expérience qui sont soit libres, soit en prêt, ou qui voudraient peut-être un dernier contrat.
Est-ce qu'on peut dire affaire à suivre? Évidemment, on va en reparler dans cette émission.
Bien sûr, le TFC, c'est clair, bien sûr.
Voilà, très bien, affaire à suivre. C'est très joliment dit, puisque vous validez tout ce que je dis. Tout de suite, on passe au pronostic. Diggining, parce que la semaine dernière il y a eu un bon pronostic. Alors je jette un petit coup d'œil à mes fiches, quoique pas du tout, on se l'est dit sur un sombre groupe WhatsApp sur ces pronostics. La semaine dernière on avait pronostiqué un match Stade Stade Toulousain, pardon, excusez-moi Coraline, je voudrais pas vous vexer. Ça s'est plutôt bien passé pour les Palois qui restent premiers de ce top 14, pardon, Coraline qui avait dit une victoire de Pau 20-15.
Tout à fait, j'avais mis point bonus pour le stade, ce qui du coup a été le cas, ouais. En effet. Mais une victoire quand même de la section.
Il y a eu aussi une victoire de Pau qu'avait annoncé Corentin, 21-18.
Alors moi j'avais annoncé une victoire du Stade Toulousain.
Ah bon? Ah oui, c'est non. Vrai, excusez-moi, c'est Erwan qui avait annoncé une victoire de Pau.
Je tiens à m'excuser parce que j'avais dit le Stade Toulousain avec bonus offensif et la section sans bonus, je me suis trompé.
C'était l'inverse, c'est Erwan, pardon, qui avait pronostiqué la victoire de Pau 21-18. Bravo Coraline, vous n'avez rien gagné.
Eh bien parfait.
Si ce n'est le fait d'avoir battu Erwan et Corentin, ce qui est déjà pas mal.
Mais moi, la victoire de hier soir me suffit.
Deux spécialistes de rugby qui ont pu donc, ils ont eu le nez FM.
Exactement.
Et justement, on va parler...
Le pif,
voilà. Est-ce que vous l'avez encore, le pif? Corentin, tome départ, 30 secondes pour nous dire le vainqueur entre le Stade Toulousain et Perpignan. C'est Ernest Vallon, samedi à 15h pour la 6e journée de Top 14. C'est parti.
Alors, bon, j'espère ne pas me tromper cette fois. Hein. Je vais voir quand même la victoire du Stade Toulousain avec un groupe qui sera un petit peu plus étoffé, des joueurs qui sont en train de se retrouver. On le sait, Pau, c'est la bête noire du Stade Toulousain depuis des années. Là, c'est Ernest Vallon, c'est Perpignan qui a pris 40 grains contre Pau, justement, à la maison. Donc là, je pense que le Stade Toulousain va devoir, de toute façon, aller chercher une victoire avec bonus pour rester accroché au wagon de tête. Donc, victoire des Toulousains avec 30 points marqués pour les Rouges et Noirs.
Eh bien, c'est terminé. J'en ai même la hanche qui couine, rendez-vous compte. Corentin, donc, c'est noté. On va espérer que ça soit le bon pronostic. Coraline, est-ce que vous êtes prête?
Je suis prête. Exactement. Je ne vois absolument pas l'USAP venir gagner à Ernest Vallon. L'USAP qui est en grande difficulté, qui a enfin eu une victoire ce samedi face à Toulon. Toulon, en effet, de 4 points, il me semble que Perpignan peut gagner. Non, je ne vois pas du tout Perpignan aller gagner à Ernest, d'autant plus que c'est à la maison. Jaminet a fait un piètre match samedi, dimanche hier. Mais
vu comme c'est vous qui êtes aux manettes, je peux pas couper les micros.
Exactement, voilà. C'est moi qui dirige.
Jaminet contre Montpellier, Montpellier contre Perpignan, pardon. C'est bien, c'est un retour à la maison.
Exactement, tout à fait.
Voilà, comme...
Il y a deux saisons, il me semble.
Sofiane Guitoun aussi a joué à Perpignan, si je dis pas de bêtises. Corentin, vous me confirmez?
Ah, je confirme pas, là, j'ai pas les informations.
J'ai pas les informations. Il me semble que Sofiane Guitoun a joué à Perpignan, si je dis pas de bêtises. Coraline, va nous regarder ça.
Ouais, c'est possible, je saurais pas dire.
Ouais, on en est au « ouais, c'est possible ». Regardez, Coraline va nous regarder ça. Est-ce que... écoutez, merci d'avoir été avec nous, il est déjà l'heure. Déjà l'heure de se quitter. Merci, Corentin, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
C'est quoi le week-end, enfin la semaine et le week-end prévu là? Est-ce que vous avez quelque chose à arbitrer? Parce que vous êtes arbitre de foot aussi.
T'es fait, c'est Liverpool.
Très bien, jeudi soir. Merci beaucoup, Coraline.
Merci à vous.
Voilà. Pareil, à Pau ce week-end?
Bien sûr, contre Bordeaux.
Voilà, on suivra ça. Le coup de cœur, s'il gagne, on le sait déjà.
Ah, bien sûr.
Il n'y a pas eu débat. La semaine prochaine, nouvelle équipe, Corentin, Coraline, donc on prend rendez-vous.
Allez, on est là.
C'est parfait. Un nouvel invité au micro d'Esprit Sport, Modibo Diarra, champion de France, d'Europe et du monde de boxe française, sera avec nous pour nous parler de la boxe française, de l'état de la boxe française en France, mais aussi de son parcours et de sa retraite parce qu'il a déjà arrêté sa carrière. Ce sera la semaine prochaine. Pour ne rien rater, soyez avec nous la semaine prochaine, même heure, même radio, pour parler une heure de sport ensemble. Bonne semaine, donc, et rendez-vous la semaine prochaine.